Ehi, Mario!
Luigi, téléphone, maison.
Les geeks existent depuis des années, mais sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un?
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi également 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment ça va?
Eh bien ça va bien.
Eh bien qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on enchaînera sur un jeu de plateau carte.
De plateau carte, d'accord.
Ensuite, on parlera de Forum RP, puis d'un magazine geek, d'accord. Pour enchaîner sur l'actualité cinéma, avec notre petite rubrique animé nostalgie.
Voilà, où je vais vous parler d'un dessin animé des années 80, et il y a beaucoup à dire sur ce dessin animé.
Et on finira avec une série télé dont tout le monde parle.
Très bien. On commence donc par la première partie de l'émission. Et dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 17 novembre de Star Wars Battlefront 2, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par DICE et édité par Electronic Arts. Donc c'est un FPS, First Person Shooter. Le jeu se déroule dans l'univers de la saga à succès. Le mode campagne se déroule sur une trentaine d'années, chronologiquement entre les films Star Wars Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, tandis que le multijoueur couvre quant à lui toutes les périodes apparaissant dans les films et vous permettra de prendre part à des combats au sol et dans les airs. Star Wars Battlefront 2, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Autre sortie, le 17 novembre, la sortie de deux jeux, tout d'abord Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune sur 3DS. C'est développé par Game Freak et édité par Nintendo. Donc c'est un RPG et les deux jeux sont des versions améliorées de Pokémon Soleil et Pokémon Lune, proposant ici de nouveaux éléments de scénario, de nouveaux Pokémon, ainsi qu'un lot d'améliorations et autres nouveautés sur l'archipel d'Alola. Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, c'est disponible sur 3DS. Et enfin la sortie le 15 novembre de Lego Marvel Super Heroes 2, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par TT Games et édité par Warner Bros. Interactive. Donc c'est un jeu d'action-aventure. Et dans ce nouvel épisode, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie s'associent pour faire face à une menace surpuissante. Vous allez pouvoir explorer des environnements variés et transporter des objets et des personnages à travers les siècles, avec les nouveaux modes bataille, jouez entre amis ou en famille, et faites face à des défis thématiques ou affrontez-vous dans les arènes de combat. Lego Marvel Super Heroes 2, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe tout de suite à la musique avec un petit guideré, les rois des animaux. D'ailleurs, Guideré qui sera en concert à Troyes.
Oui, j'ai vu ça, qu'elle venait au 3 fois plus.
Voilà, au Café Théâtre, le 3 fois plus, ce sera le 10 mars. Voilà, si vous n'avez pas encore pris vos places, eh bien, c'est le moment. On écoute donc les rois des animaux et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu vas nous présenter un jeu de plateau cartes, c'est ça?
Oui, enfin c'est plus un jeu de cartes. Ça s'appelle Miss Catonic, lycée de jeunes filles. Oui, nous allons aller dans un lycée de jeunes filles.
D'accord.
Où vous allez incarner une fraternité d'un prestigieux lycée privé pour jeunes filles. Manque de chance, le personnel du lycée est au service des dieux sombres. Faites de votre mieux pour que votre fraternité reste saine d'esprit plus longtemps que les autres et vous remporterez la victoire. Donc voilà, c'est un lycée où effectivement il va y avoir des monstres, des choses un peu étranges. Donc comme je l'ai dit, en tant que joueur, vous allez représenter donc une des fraternités d'étudiantes, que des filles. au lycée et vous allez devoir donc lutter pour survivre, surtout sans perdre la tête, ce qui est un vrai défi quand on sait que l'intégralité du personnel est composée de créatures terrifiantes et de cultistes fous. Donc il vous faudra recruter des nouvelles étudiantes pour vous aider à repousser ces damnés et tant qu'à faire, envoyer quelques spécimens rendre visite aux autres fraternités. Mais personne n'aime les faillots, mais quand votre santé mentale est en jeu, il vaut mieux s'en mettre à balancer aussi. La fraternité qui tient le coup le plus longtemps aura gagné. Donc c'est un jeu qui est basé sur le concept de ce qu'on appelle la construction de deck, c'est-à-dire que vous allez construire votre jeu petit à petit. Donc effectivement, vous allez construire votre jeu, mais vous allez aussi construire celui de vos adversaires, ou plutôt déconstruire celui de vos adversaires, pour essayer donc vous de recruter les meilleures étudiantes et garnir la pioche de vos rivaux d'enseignants corrompus, afin de les rendre complètement fous. Donc vous allez avoir un petit plateau comme ça justement où vous allez pouvoir placer les différentes cartes voilà, qui va servir à chaque joueur. Et donc il faudra à chaque tour faire un choix, soit tout faire pour rester sain d'esprit, soit tout faire pour pourrir le jeu de l'autre, pour pas qu'on vous attaque trop violemment. Donc voilà, alors c'est un jeu qui est rigolo, qui est surtout rigolo par rapport au graphisme et puis aux différents bestioles, monstres effectivement qu'on peut retrouver. Pour les vrais gros joueurs qui aiment la tactique, ils vont pas y trouver leur compte parce que on peut pas vraiment établir de tactique vu que l'autre joueur peut vous pourrir votre jeu très rapidement. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que pour les joueurs, je dirais, entre guillemets, non confirmés, ils vont trouver ça rigolo, on va s'amuser, parce que ça reste quand même un jeu très agréable. Mais pour des joueurs un peu plus confirmés, ils vont être un peu frustrés de finalement pas avoir la main sur leur jeu, quoi.
D'accord.
Mais il est très très beau comme jeu. Enfin, les cartes, les professeurs sont bien trouvés. Enfin, moi j'ai pris plaisir à découvrir chaque carte au fur et à mesure. C'était très rigolo. Et donc, alors c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Il y a quand même des petites complexités au niveau des règles. Donc, c'est plutôt à partir de 14 ans. Et il faut quand même compter une heure de jeu environ pour pouvoir terminer une partie. Donc voilà, un petit jeu sympathique, sans prétention, avec un vrai univers. Puis c'était, je trouve ça plutôt rigolo, cette idée de lycée de jeunes filles avec les fraternités. Voilà, où il faut essayer de... Un peu comme dans l'appel de Cthulhu, il ne faut pas perdre l'esprit.
Ok. Voilà.
Donc ça s'appelle Miss Catonique, lycée de jeunes filles.
Très bien, merci Elodie. On passe à la musique, et puis après on parlera du forum roleplay à l'honneur cette semaine, où je vous emmènerai à Londres. Et on écoute tout de suite Nao Sol and the Wax Blend avec le titre Nobody. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct 20h-21h, le samedi en diffusion 13h-14h et sur campus3.fr. Et on passe tout de suite au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Et je vous emmène donc à Londres. Le forum s'appelle Moonspell. Ça se passe de nos jours, donc en 2017 à Londres. Depuis toujours, les surnaturels existent. Créés par les dieux pour préserver l'équilibre, ces êtres prennent de plus en plus de place et les sorcières peinent à cacher leur existence. Le forum s'inspire entre autres du roman Salem de Sandra Trinham et bien sûr d'autres inspirations, puisque là on va parler bien sûr vampires, loups-garous, sorcières, etc. Voilà, donc ça s'appelle Moonspell, c'est un forum qui n'est pas très très vieux puisqu'il date d'un peu moins d'un mois, il a ouvert ses portes le 24 octobre dernier. Au niveau des graphismes, eh bien on est plutôt sur des graphismes clairs sur fond sombre, donc il y a les deux. Et puis vous allez donc pouvoir jouer des vampires, loups-garous, sorcières, humains et initiés. Les initiés c'est un peu les serviteurs des sorcières. Voilà, en homme. Ce forum compte quand même, depuis un peu moins d'un mois, il a déjà 25 membres enregistrés. Pour participer, il faut écrire donc des roleplays
de 30 lignes minimum. Donc oui, il faut quand même bien écrire, mais ça se fait. Par contre, c'est interdit au moins de 16 ans, puisqu'il peut y avoir des petites choses un petit peu violentes dans ce monde-là. Donc, eh bien, vous allez pouvoir incarner un surnaturel. Au niveau des annexes, eh bien, vous avez donc la description des races jouables. Vous avez également la répartition des races à Londres, puisque chaque clan ou meute, hein, selon ce qu'on joue, à une zone vraiment prédéfinie à Londres où ils se sont installés, avec également dans cette répartition la chronologie des clans, de ce qui s'est passé dans chaque clan depuis des années. Vous avez également un bestiaire, puisqu'on peut également trouver d'autres créatures à Londres, mais des créatures qui sont non jouables et comme principalement des esprits. Et il y a plusieurs types d'esprits. Donc tout ça est dans le bestiaire. Voilà, c'est un forum assez simple, il n'y a pas de points ni quoi que ce soit, c'est de l'écriture pure, donc il faut vraiment aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum. Et pour y aller, donc ça s'appelle Moonspell, et vous tapez moons-spell.forumactif.com, ou bien vous allez sur notre blog. Oui, nous avons un blog, vous n'êtes pas encore au courant. loadingradio.wordpress.com, vous avez déjà toutes les choses auxquelles on va parler ce soir. Hein.
Oui, sont déjà en ligne. Le sommaire de l'émission est là.
Et là, voilà, vous pouvez regarder même en avance. Même le petit blind test que je vais vous faire tout à l'heure. Voilà, en ce qui concerne ce petit forum roleplay à l'honneur cette semaine, on repasse à la musique et ensuite on parlera d'un
magazine féminin geek. Dont j'ai déjà parlé, mais j'en reparle.
Quelque chose.
J'en reparle parce qu'il y a, depuis le moment où j'en ai parlé, deux autres numéros, je crois, qui sont sortis. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce magazine fort sympathique.
D'accord, très bien. On va écouter un petit Black Bones. C'est un groupe de Reims avec le titre Deathco. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu vas nous parler d'un magazine féminin geek. C'est
oui,
bien ça.
Qui s'appelle Mageek. Alors c'est un magazine qui allie à la fois parodie de magazine féminin et articles de fond, c'est pas juste une blague. Et donc ce fanzine Mageek célèbre les femmes de la galaxie geek et propose une alternative à celles qui ne se retrouvent pas forcément dans les périodiques paraissant actuellement. Donc c'est un fanzine à parution biannuelle de 50 à 70 pages selon les numéros et tout en couleurs. Donc ce magazine, je crois qu'on avait dû en entendre parler, c'est peut-être sur internet par hasard que moi j'ai entendu parler, et par la suite je les ai vus à la Japan Expo. Le premier numéro était sur Game of Thrones, donc ouais. Évidemment moi j'ai foncé dessus. Et donc dans ce dossier par exemple, donc il y avait une réflexion sur la place des femmes dans la culture geek, des coups de cœur de la rédaction sur des séries, romans, bandes dessinées, jeux vidéo, une recette japonaise, un récit de voyage, une fanfiction sur Sherlock, des jeux, etc. Et effectivement entre le côté féminin où on va nous montrer quel genre de fringues on peut trouver sur internet ou dans des magasins pour s'habiller plus ou moins dans la même tendance qu'un personnage de série télé. Donc on a ça, et à la fois on a effectivement des articles très construits, soit sur des choses très culturelles, soit bah, comme là il y avait un article sur la place des femmes dans la culture geek par exemple. Donc c'est très intéressant, c'est à la fois fun et très intéressant. Ils ont vraiment réussi à allier justement les deux. Le deuxième numéro était sur, il y avait un dossier sur Doctor Who, donc évidemment j'ai foncé dessus avec les relookings en personnages de la série, un classement des aliens les plus débiles et les plus flippants, des articles de fond sur Miyazaki et Lovecraft, un horoscope geek, une fanfiction Harry Potter et des jeux. Le numéro 3 lui était plus basé sur Disney, avec une réflexion sur les clichés du prince charmant et des shoujo manga, un article de fond sur la représentation du corps féminin dans les jeux vidéo qui est extrêmement intéressant, un tuto make-up Hunger Game, les témoignages de deux femmes travaillant dans le domaine du jeu vidéo, donc pour montrer aussi que les femmes ont leur place dans cet univers. Et donc il manquait deux numéros. Je suis retombée par hasard sur ce magazine-là sur internet et je me dis tiens, où est-ce qu'ils en sont? parce que le dernier, je l'avais acheté d'ailleurs à la Japan Expo. Et deux numéros étaient sortis. Alors il y a le numéro 4, mais il y a aussi un hors-série spécial sur le Japon qu'ils ont sorti exprès pour la Japan Expo parce qu'ils avaient, voilà, ils ont envie de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude. Et donc là, il y avait un dossier spécial sur les tendances japonaises et coréennes. Et ce fameux numéro spécial est pas mal parce qu'il n'y a pas trop de... Comment dire ? C'est vraiment pas un magazine cliché. Pour le coup, il parle de choses dont moi, je n'avais pas forcément entendu parler, avec des choses très précises sur des... notamment des espèces de séries japonaises, là, où ils sont tous en train de pleurer dedans. Enfin, voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est très culturel et ça nous montre d'autres choses. Et puis, vous avez le numéro 4 qui est sorti, donc qui est paru là au mois de septembre. Avec évidemment un dossier sur Star Wars, parce qu'il n'avait pas encore parlé de Star Wars et que, ben, au mois de décembre, nous aurons le prochain film qui sortira. Où là, on voit l'évolution des femmes dans la saga, les beaux gosses incompris, le relooking en Jedi ou en Sith, les plantages de la saga, mais aussi un tuto coiffure, une recette de cookies vegan, le matos pour partir à la chasse aux fantômes, un voyage à Prague et un article sur le GN aussi. Sur quelqu'un qui a fait son, enfin une jeune femme qui a fait son premier GN et qui raconte un peu comment ça se passe et cet univers. Donc c'est vraiment très riche, très complet. Ils essaient vraiment de parler de tout, voilà, sans se poser de barrière. Alors ça reste un magazine féminin, donc c'est très axé quand même sur les femmes et sur la place des femmes dans cet univers-là. Mais je pense que les hommes peuvent y trouver aussi leur compte sur les différents articles qui sont proposés. Et voilà, je trouve que c'est un magazine de qualité, bien écrit. Ils aimeraient bien passer un peu plus pro. Donc on espère qu'ils essayent de débloquer des choses pour pouvoir le faire. Mais en attendant, vous pouvez donc retrouver ces différents numéros. Ils sont tous disponibles sur Internet. Donc soit vous pouvez les retrouver donc, sur Facebook en cherchant Magik, soit sur magikfanzine.com. Donc ils ont un site Internet avec un blog et on retrouve un lien vers la boutique pour pouvoir les acheter. Sinon, on les retrouve parfois sur des conventions comme la Japan Expo par exemple. Donc je vous invite vivement au moins à jeter un coup d'œil au site. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être et pourquoi pas commander un magazine chez eux. En plus, c'est sympa, à chaque fois ils mettent un petit autocollant avec des petits mots gentils dessus, bonne lecture, etc.
Il va y en avoir d'autres ?
Oui, non, ils ne s'arrêtent pas là. Hein.
D'accord.
Il va y en avoir d'autres.
Ok.
Voilà. Biannuel, donc voilà, là on a 4 numéros. Après, il faut attendre l'année prochaine pour les prochains numéros.
D'accord.
Mais voilà, un magazine à suivre, vraiment très intéressant et. Je le conseille vivement.
Ok, merci Elodie. On passe à la musique avec les Cadavreski. Le titre c'est Exercice de diction 1. Et on se retrouve après pour parler, de cinéma, avec les sorties ciné à 3, avec l'actu tournage où on va parler de suite et de remake pour pas trop changer. Également la petite rubrique que sont-ils devenus ? Animé nostalgie, tu vois,
je me paume.
Animé nostalgie cette semaine sur un dessin animé des années 80 et je vais peut-être vous faire des révélations sur ce dessin animé. Et puis on finira l'émission par une série. C'est tout.
Voilà. C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal. On a encore une demi-heure à passer ensemble. On écoute donc Cadavreski avec Exercice de diction 1. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. C'est le jeudi 20h-21h. C'est le samedi 13h-14h. Et c'est sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant... au cinéma, avec les sorties ciné à 3 cette semaine.
Ah, des super-héros.
Des super-héros, et oui, avec Justice League, réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et Jason Momoa. Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique. Justice League, c'est à voir en ce moment au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, un film d'épouvante avec Happy Birthday. C'est interdit au moins de 12 ans, attention. C'est réalisé par Christopher London et c'est avec Jessica Roth et Israël Broussard. Prisonnière d'une boucle temporelle, Teresa, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre, une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l'identité de son tueur ? Voilà, c'est un peu un jour sans fin, version épouvante. Happy Birthday, c'est à voir également actuellement au CGR à 3. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Et puis un film d'animation, eh bien oui, c'est l'époque et le film s'appelle L'Étoile de Noël. Et c'est réalisé par Timothy Reichardt. Un petit âne courageux, beau, rêve d'une vie meilleure, loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure. Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme le plus excentriques les uns que les autres, Beau et ses nouveaux amis suivent l'étoile et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée, celle du premier Noël. L'Étoile de Noël, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, Le Musée des Merveilles, réalisé par Todd Haynes, avec Aix Fegley, Millicent Simons et Julianne Moore, adapté donc du roman de Brian Selznick, l'auteur de Hugo Cabret. Le Musée des Merveilles suit sur deux époques distinctes le parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente. Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l'indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York. Ça s'appelle Le Musée des Merveilles et c'est à voir actuellement au CGR A3. Et puis autre film qui sort cette semaine, M, réalisé par Sarah Forestier, avec Sarah Forestier et Redouane Arjan. Lila est bègue et s'est réfugiée dans le silence. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Mo, un jeune homme charismatique en manque d'adrénaline et d'amour. Il tombe fou amoureux, mais Lila va découvrir que Mo a aussi ses secrets. M, c'est à voir actuellement au CGR A3. Et puis vous avez Connaissance du monde, les documentaires donc sur différentes parties du monde qui reviennent au CGR. Cette fois-ci, ce sera Londres, capitale de l'Empire, c'est réalisé par Vincent Halleux. Et ce sera vendredi 17 novembre, deux horaires, 14h30 et 20h au CGR pour ce documentaire sur Londres. Et également une avant-première, Le Brio, réalisé par Yvan Attal, avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. C'est le vendredi 17 novembre à 20h, donc en avant-première au CGR. Et puis vous avez également une soirée ciné-débat, Solidarité Femmes, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Solidarité Femmes souhaite évoquer, à travers le film Mauvaise fréquentation, la prostitution chez les mineurs. On ne peut pas tout faire par amour. Donc, film donc, de Jean-Pierre Améris, Mauvaise fréquentation. La soirée sera donc le lundi 20 novembre à 20h au CGR A3. Et puis, ce week-end, eh bien, il y a un festival, le festival Cours en scène, deuxième édition. Le festival du court-métrage qui a lieu donc à la Chapelle Saint-Luc, à la salle de Didier Bien-Aimé, mais également au CGR A3. Ce sera le 17, 18 et 19 novembre. Et pour le programme, eh bien, vous allez sur internet et vous tapez coursenscène.com et vous avez tout le programme donc, de ce 17, 18, 19 novembre pour ce festival Cours en scène, deuxième édition. Et puis, on en arrive donc à l'actu tournage. Qu'est-ce qui se prépare ? Et oui, ça vient de tomber. Star Wars, eh bien, Rian Johnson va créer une nouvelle trilogie. Eh oui. Si Star Wars, Les Derniers Jedi, sera donc le premier film Star Wars de Rian Johnson, il ne sera certainement pas le dernier. Lucasfilm a annoncé que le scénariste et réalisateur allaient poursuivre leur collaboration et créer une toute nouvelle trilogie. Lucasfilm et Disney semblent bien décidés à exploiter l'univers de Star Wars. Depuis le rachat de Lucasfilm en 2012 par Disney, l'univers cinématographique de Star Wars a été relancé avec un planning de sortie assez millimétré. En 2015, 10 ans après la fin de la prélogie, était sorti donc Star Wars Le Réveil de la Force de J.J. Abrams. En 2016, on a eu le droit à Rogue One Star Wars Story de Gareth Edwards. Le 13 décembre prochain, bien sûr, il y a Star Wars, Les Derniers Jedi de Rian Johnson. Et après, le 23 mai 2018, Solo, A Star Wars Story de Ron Howard. Pour enfin finir en 2019 par Star Wars 9, qui sera réalisé par, normalement, J.J. Abrams. Voilà, la fin de la troisième trilogie ne marquera donc pas la fin de l'univers Star Wars. Comme nous l'annonce Lucasfilm, Johnson va créer une trilogie Star Wars totalement nouvelle dont il écrira et réalisera le premier film avec un collaborateur de longue date, Ram Bergman, à la production. Il insiste par ailleurs sur cette nouvelle trilogie qui n'aura rien à voir avec la saga Skywalker. Johnson va introduire de nouveaux personnages que l'univers Star Wars n'a pas encore explorés. Aucune date de sortie de prévue pour le moment pour cette nouvelle trilogie, mais affaire à suivre. Et oui, on va pas abandonner le bébé si tôt. Hein.
Non, Disney vient de le reprendre.
Voilà.
Ça, c'est quand même dommage.
Et puis, au niveau d'un remake, eh bien Jason Momoa, qui est actuellement dans Justice League, annonce, même teasé, qu'il y aura un remake de The Crow. Donc, il a teasé ça sur les réseaux sociaux. Le projet de remake de The Crow verra-t-il enfin le jour ? En tout cas, Jason Momoa, l'acteur star du projet qui sera réalisé par Corinne Hardy, a posté une image du personnage d'Eric Draven sur Instagram avec un message adressé à Hardy. « J'attends depuis si longtemps, Corinne Hardy, faisons-le, frère, aloha. » Voilà. Originellement, The Crow est une série de comics créée par James Hobart, publiée en 89. Mais beaucoup connaissent le film original de 94. Réalisé par Alex Proyas pour sa position de film culte et maudit en raison de la mort de Brandon Lee à l'âge de 28 ans suite à un accident de tir survenu sur le plateau. Le film a inspiré une suite directe qui était The Crow, la cité des anges en 96 et compte tenu de sa popularité, le projet d'un remake de l'histoire d'Eric Draven s'est vite retrouvé à divers stades de développement dans plusieurs années. Après Luke Evans, James McAvoy, Jack Huston, Tom Hiddleston, et bien c'est finalement Jason Momoa qui a obtenu le rôle d'Eric Draven et qui rejoint Corinne Hardy, choisi comme réalisateur depuis 2014. The Crow, ou Le Corbeau en français, hein, c'est l'histoire d'Eric Draven, amoureux fou de Shelley Webster. La veille de leur mariage, tous deux sont sauvagement assassinés. Selon une ancienne croyance, l'âme d'un défunt est conduite par un corbeau au pays des morts. Mais parfois, le corbeau ramène l'âme pour qu'elle rétablisse le bien. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric Draven à la vie dans le but de se venger. Bien sûr, le film original est énormément aimé et beaucoup pensent qu'un remake n'est pas nécessaire, comme c'est le cas d'Alex Proyas, hein, le réalisateur du film original, et également d'un autre film qui était devenu culte, Dark City. Malgré cela, eh bien, le choix de l'acteur Jason Momoa pour interpréter Eric Draven est peut-être assez prometteur, puisque ces dernières années, il a quand même gagné en notoriété suite au rôle de Khal Drogo hein, dans la série Game of Thrones. Il est aussi attendu donc, en tant qu'Aquaman dans l'univers de DC Comics, et puis dans les deux Justice League, hein, dont le premier volet donc, sort cette semaine. Quant à Corinne Hardy, le réalisateur est connu pour les films d'horreur Le Sanctuaire et le prochain spin-off de Conjuring, The Nun. Donc on espère qu'ensemble, les deux hommes produiront peut-être un remake honorable, on ne sait pas. Bon, bref. En tout cas, le créateur de comics James Hobart a lui aussi révélé que The Crow entrera en production en février 2018 et que le tournage devrait commencer plus tard dans l'année, juste avant que Jason Momoa prenne la direction de la tournée promotionnelle d'Aquaman. Donc, je pense que c'est sur la bonne voie. Et on en arrive donc à notre petite rubrique animé nostalgie où je vais vous spoiler un animé des années 80 et il va falloir bien sûr retrouver la musique, c'est très simple et bien ça faisait comme ça. Elodie, tu as 2 secondes pour retrouver ce que c'est. Attention avant qu'on dise le titre de cet animé.
Clémentine ?
Oui.
T'en avais pas déjà parlé de Clémentine ?
Non. Non, je n'en avais pas. Je l'ai gardé. Ah, c'est joli hein, la musique. Ah, on est tout content dans la musique. Hein. On
on est sur la version longue, hein, donc.
Oui, oui, voilà. j'ai cru entendre.
Donc Clémentine, ah Clémentine, eh bien c'est une série télévisée d'animation franco-japonaise en 39 épisodes de 22 minutes. Et ça a été diffusé la première fois le 2 octobre 85 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Alors Clémentine, eh bien, comment dire, Clémentine c'est un peu le dessin animé qui ferait de Rémi sans famille une comédie. Puisque pour moi, Clémentine reste le pire dessin animé des années 80. Pire dans quel sens ? Dans le sens dramatique. Voilà, si vous faites un petit Clémentine avec un petit Rémi sans famille, un Princesse Sarah et vous finissez par Téléchat, vous êtes bon pour la dépression. Mais encore plus avec Clémentine. Donc il y a deux saisons, hein. Il y a une première saison de 26 épisodes, ils auraient pu en finir là d'ailleurs. Et il y a une deuxième saison, beaucoup moins bien, de 13 épisodes. Donc l'histoire, bon, ça se passe dans les années 1920, à Villacoublay, en France. Une jeune fille, Clémentine, qui a 10 ans, vit avec son père qui est aviateur et son petit frère, ainsi que leur nourrice. Et eh bien, un jour, elle aime beaucoup également être dans l'avion de son père. Un jour, ils vont avoir un accident et elle va se retrouver en fauteuil roulant. Et cet accident d'avion est provoqué par Malmotte, un démon de flammes. Ce dessin animé est horrible en tout point. J'ai regardé les 39 épisodes, oui, oui, bien sûr. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup choquée dans ce dessin animé.
C'est vrai que quand j'y repense, j'ai plutôt un sentiment de malaise.
Eh bien, c'est ça. On a ce sentiment
c'est
pendant
malaisant, voilà.
Ces 39 épisodes.
Je suis mal à l'aise.
Alors, il faut savoir que Clémentine, elle rêve. Est-ce qu'elle rêve vraiment ? Ça, c'est la question. Elle rêve qu'une espèce de fée qui s'appelle Emera vient dans une bulle bleue et l'emmène en voyage. Voilà, donc à chaque fois qu'elle ferme les yeux. Ça, c'était valable pour la première saison. C'est moins valable pour la deuxième saison. Je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques secondes.
Et le petit chat là, avec son hélice.
Voilà, qui s'appelle Hélice, chat. Voilà, qui a une hélice qui peut voler seulement dans les rêves, dans la première saison. Deuxième saison, c'est différent. Donc, elle va voyager également, puisque comme elle a son accident, elle a eu, donc elle est paraplégique. Et son père va quand même l'emmener dans divers endroits du monde. Elle
Je
va
crois pas... qu'il l'abandonnait plus ou moins.
Ah non, pas du tout. Ah non.
Son père l'aime beaucoup. Laissé à l'hôpital et.
Non, elle sortira quand même de l'hôpital, mais elle va vraiment voyager. Elle va aller dans beaucoup de pays: Allemagne, Angleterre, Italie, Suède, Afrique, le pays des mille et une nuits, au Canada, en Espagne, en Égypte, au Japon, etc., etc. Elle va faire beaucoup de voyages avec son père et la nuit, bah, elle va rêver qu'elle fait des choses, qu'elle aide des gens également. Voilà. Clémentine, en fait, quand on arrive au quatrième épisode, il y a déjà deux morts et une paraplégique. Hein. Voilà, donc déjà, ça commence bien, le ton est donné. Le premier épisode, il y a un mort. C'est un petit agneau qui a faim et qui meurt.
C'est horrible. Voilà. Bonjour les enfants.
Voilà. Et la musique est triste, mais toujours triste, même dans les moments de joie, on est triste, quoi. C'est malaisant, comme tu disais. Le dessin a très très mal vieilli, c'est très compliqué de le voir maintenant, hein. C'est très soporifique. Hein. Y a des choses qui m'ont quand même choquée, puisqu'on est dans les années 80. Dans les années 80, donc tout ce qui était manga avait été un peu coupé en France parce que c'était trop violent. Voilà, même Jeanne et Serge, j'en ai parlé il y a quelques semaines, a été coupé parce qu'il y avait des choses un peu trop osées ou alors un peu trop de violence, etc. Donc il y avait eu beaucoup de coupures comme ça pour faire passer ces mangas pour des dessins animés pour enfants, comme Nicky Larson, comme Dragon Ball, comme Ken le Survivant, etc. Et Clémentine, eh ben, on l'a oubliée. Alors, c'est pas au niveau des scènes, puisqu'il n'y a pas. Bon, il y a de la violence, c'est plutôt dans le drame, et ça a été vachement critiqué, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de morts dans Clémentine, même s'il n'y a pas d'effusion de sang ni quoi que ce soit. Il y a quand même beaucoup de morts. Par contre, là où je suis choquée, c'est au niveau du doublage. Pourquoi on a laissé passer des phrases comme ça au niveau du doublage français ? Il faut savoir que quand elle est dans un épisode en Angleterre, il me semble, il y a un méchant qui lui dit « Clémentine, je vais te saigner !» Voilà, donc déjà ça donne le ton. Et puis dans le 37e épisode, Malmotte qui fait peur quand même, c'est un démon de flamme, il avait une voix, voilà, il foutait les boules hein, quand même. Et Malmotte, dans le 37e épisode, dit « Cette petite chienne de Clémentine ». Voilà, ça c'est le doublage français. Et donc ça, on ne l'a pas coupé. Ça, voilà, c'est là, ça existe. Et moi, ça me choque, finalement.
Oui, pour des enfants, oui.
Voilà. Donc Clémentine, je vais te saigner. Et cette petite chienne de Clémentine, c'est des phrases qui m'ont choqué. Surtout que c'était un doublage. Donc bon, ça aurait pu être rattrapé en français. Bon, bref. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Clémentine, donc, elle va vraiment voyager. Elle va rencontrer des personnages plus ou moins connus. Elle va rencontrer Pinocchio, Léonard de Vinci, Hansel et Gretel, Oliver Twist, Nils Holgersson, Aladdin, etc., etc. Et puis, voilà, donc la première saison, même si le dessin, l'animation a vachement mal vieilli finalement, bon, ça se regarde pas trop hein, maintenant. Bon, on va dire que ça se regarde mieux que la deuxième saison. Et la deuxième saison, c'est une catastrophe. Il y a 13 épisodes, on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait cette deuxième saison. L'animé, le dessin est beaucoup moins beau, c'est médiocre même. L'histoire n'a plus de sens, le scénario n'a plus de sens, puisque en fait, du coup, dans la deuxième saison, elle rêve plus, ça se passe vraiment. Donc Elise parle aux humains. Oh, c'est normal! C'est normal, tout le monde l'entend. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, la deuxième saison, c'est n'importe quoi. Ça aurait pu se terminer, puisque il faut savoir que dans la première saison, au 26e épisode, Clémentine remarche. Et du jour au lendemain, je n'ai plus peur de Malmotte, je peux me lever, hop, et je remarche. Tadam, je peux faire 1 km à pied. En plus, c'est ce qu'elle fait. Hein.
D'accord.
Bon, ça semble un peu bizarre. Bon, dans la deuxième saison, donc, où le scénario est quasi n'importe quoi. Donc les Malmotte envoie des gens pour essayer de capturer Clémentine. Je sais pas pourquoi Malmotte s'acharne vraiment sur une gamine de 10 ans comme ça pour la capturer.
Si
mais pourquoi sur elle? Il y en a d'autres des enfants. Pourquoi elle vraiment? Bon, bref. Voilà, les envoyés de Malmotte interviennent donc directement dans la vie de tous les jours de Clémentine afin de la livrer à leur maître dans cette deuxième saison. Et dans la fin de la deuxième saison, je vais vous raconter la fin. Malmotte a trouvé une compagne qui s'appelle Malmorea et ils sont prêts à s'emparer de Clémentine. Et pour la sauver, donc Emera, dans sa bulle bleue, va se sacrifier pour les tuer. Tout finit bien. C'est un magnifique dessin animé très gay. Voilà, donc, Clémentine, oui, je dirais que c'est vraiment mon top pire dessin animé des années 80. Vous pouvez le regarder.
C'est la pire chose jamais vue, mais vous pouvez le regarder.
Oui, vous pouvez le regarder sur YouTube, notamment. Si vous voulez vous faire une petite idée, voilà, je vous conseille de regarder, mais pas trop longtemps, parce que ça... Voilà, sinon vous allez tomber en dépression. Voilà, en ce qui concerne Clémentine, il y a beaucoup de choses à dire sur ce dessin animé, mais je n'ai pas le temps. Là, c'est le moment d'écouter un petit titre et après on parlera d'une série.
On va rester dans un thème très gay, on va parler de Serial Killer.
Ok, voilà. Super. On écoute donc Sleeper avec Statuesque et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de notre émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading, et donc Elodie, tu vas nous parler d'une série.
Oui, qui s'appelle Mindhunter, dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Ah oui, oui, j'en
entends beaucoup parler. Qui est sur Netflix avec cette première saison. Donc nous sommes en 1977 à l'aube de la psychologie criminologique et du profilage criminel au sein du FBI. Les agents Holden Ford et Bill Tetch vont s'entretenir avec plusieurs tueurs en série. Ensemble et avec l'aide de la psychologue Wendy Kerr, ils vont tenter de cerner la personnalité de nombreux meurtriers afin d'acquérir les connaissances nécessaires à la résolution d'affaires criminelles. Alors, c'est une série qui est produite par David Fincher et Charlize Theron, qui est donc diffusée sur Netflix depuis début octobre. Et elle s'inspire d'un livre qui s'appelle Mindhunter dans la tête d'un profileur de Mark Holshaker et John E. Douglas. Et c'est une série qui est vachement bien.
D'accord.
Puisqu'effectivement, on est à une époque où il y a beaucoup de séries thrillers avec la traque de psychopathes. Et du coup, c'est pas évident forcément de tirer son épingle du jeu. Alors déjà, voilà, David Fincher est producteur exécutif et réalisateur des deux premiers et des deux derniers épisodes, sachant qu'il y en a 10. Donc de cette saison inaugurale, Et Mindhunter prend un peu le contre-pied de ce qui se fait habituellement dans le genre. En général, ce sont des cliffhangers, retournements de situation, scènes d'action, courses-poursuites et tueurs charismatiques. Et ici, c'est le contraire. On privilégie le raisonnement, le voyage dans les esprits dérangés et le réalisme. Pas de stars, pas de belles gueules, on se concentre sur l'essentiel. Et donc le concept de la série, c'est se pencher sur la naissance du profilage, sur la période qui a vu naître de nouvelles méthodes pour comprendre un genre de meurtre encore inconnu qui devait déjà exister, mais des meurtres gratuits, sans mobile, et qui provoquent une incompréhension dans la société et chez ceux chargés de les traquer. Et on réalise alors que tout ce qui nous est familier aujourd'hui, donc les profilers, sonder la personnalité du tueur, emprisonné pour aider une enquête, et même le serial killer était encore inconnu il y a seulement 40 ans. Alors la série s'appuie sur... Donc là, il y a des témoignages effectivement de tueurs. Ils ont pris comme modèle de vrais tueurs. Donc ils ont trouvé des acteurs qui leur ressemblaient plus ou moins. Et voilà, là ce sont de vrais serial killers en fait qu'ils essayent de décortiquer. Et on a hâte de voir la saison 2 puisque tout au long de la saison 1, on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas qui a l'air de se préparer à faire quelque chose. Donc on se doute que c'est un des serial killers et on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, une série vraiment intelligente et après il faut prendre le temps de la regarder. Le premier épisode est un petit peu lent, la série démarre vraiment au deuxième voire au troisième épisode, mais voilà, il faut tenir le coup, c'est vraiment une série de très grande qualité. Et donc sur internet, beaucoup de gens ont trouvé que l'acteur principal Jonathan Groff ressemblait à Emmanuel Macron. Donc vous pouvez voir Emmanuel Macron en profiler, vous pouvez regarder Mindhunter. Voilà. Donc c'est disponible sur Netflix, une saison de 10 épisodes et la saison 2 est déjà signée.
D'accord, très bien.
Voilà.
Merci Elodie. L'émission touche à sa fin.
On a deux petites informations à donner.
Oui.
Donc ce week-end, les 18 et 19 novembre, il y a le Salon du Jeu 17e édition à Châlons en Champagne, avec des baby-foot, flippers, jukebox, bornes d'arcade, rétro gaming, jeux de plateau. Donc c'est au Capitole de Châlons en Champagne, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis vous avez la semaine prochaine, le vendredi 24 novembre, de 18h à 22h à la salle des fêtes de Bouilly, une soirée-jeu qui est animée par la ludothèque La Trottinette, pour les petits et grands en famille et entre amis. Il y a 1 euro qui est demandé comme participation, mais vous pourrez jouer à autant de jeux que vous voulez lors de cette soirée.
D'accord, très bien, merci Elodie. Et nous on se retrouve samedi, hein, 13h-14h, pour la rediffusion, mais également la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao,
ciao.
Bye bye.